Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Paul Wells en direct de son bureau à Ottawa. Allô, Paul?
Bonjour.
Alors, Paul, bien sûr, est journaliste politique depuis longtemps, depuis une couple d'années, je pense, Paul.
Oui, oui, ça commence bien. Là.
Donc, au Maclean's, pendant 19 ans, au Toronto Star, au Globe and Mail, et en français, on peut l'entendre aussi au Téléjournal avec Céline Galipeau à Radio-Canada. Aujourd'hui, on va parler ensemble de deux sujets. Paul travaille depuis déjà un moment sur un livre qui va bientôt sortir sur le convoi à Ottawa. Donc, on va rentrer dans cette discussion-là ensemble. Et dans un deuxième temps, on va parler du projet de loi C-18 et son lien avec les médias traditionnels. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Louis Perron, Éric Ortop, Elisabeth Brown, Michel Villeneuve, Ryan Kloss, Floriane Enagi et Carl Palin. Bon, d'abord, s'il y a des gens qui vivaient sous une roche dans la dernière année, rappelons certains faits sur ce qu'on a appelé le convoi pour la liberté à Ottawa. Donc, le 14 février 2022, le premier ministre Justin Trudeau invoque une loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à l'occupation du centre-ville. Automatiquement, lorsque cette loi-là est invoquée, ça déclenche une commission d'enquête sur son utilisation. Il y a eu toute cette commission-là qui s'est déroulée à l'automne, qui a été tenue donc par le juge Paul Rouleau, et il y a le rapport qui vient de sortir. En novembre, il y a des gens très passionnés de la vie, dont Paul, qui ont suivi ça de très, très près. Paul, est-ce que tu as essentiellement campé dans la commission? Comment tu as suivi ça?
Oui, j'y étais le plus souvent possible.
Tu as été le plus souvent possible.
J'ai quand même d'autres affaires à faire, donc je n'étais pas là tous les jours. Mais l'idée, c'était de témoigner de ce qui se passait dans la salle d'audience du commissaire Rouleau.
Puis là, tu en as fait un livre qui va bientôt sortir. On ne va pas vendre tous les scoops du livre, bien sûr, pour que les gens le livrent une fois qu'il va être disponible. Mais quand même, si tu dis que tu as été là pour essentiellement être témoin de ce qui s'est dit, avant de parler un peu plus dans détail d'un des chapitres qu'on a eu la chance de lire ici à l'équipe, je voudrais te demander de manière générale, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as vu, de ce que tu as pu entendre? Parce que dans les témoignages, il y avait tant les manifestants que les politiciens, que les défenseurs des droits de la personne. Qu'est-ce que tu as retenu de principalement de ça?
Peut-être d'abord que c'est une leçon précieuse dans la prise de décision des acteurs politiques de nos jours. Mm-hmm. Un accès qu'on n'aura presque jamais à leurs notes de service interne, à leurs conversations, à des transcriptions de leurs débats. Il y avait des dizaines de milliers de documents déposés dans cette commission. Là, de nos jours, ce qui ressort de la plupart des décisions internes des gouvernements, c'est tellement simplifié.
C'est très opaque.
Oui, oui, oui. Là, on voit comment ils agissent dans la vraie vie.
Ouais.
Et on voit qu'ils sont souvent débordés par les événements, ils sont souvent très en désaccord sur la façon de procéder. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Notamment, il y a un désaccord assez profond sur les façons de faire pour les corps policiers dans de telles confrontations avec de grandes foules de manifestants.
Ouais.
Et c'est un des débats que j'ai voulu éclaircir dans ce livre-là.
Oui, parce que ça, en fait, c'est le thème principal du chapitre qu'on a pu lire à l'avance, qui touche la question du rapport entre les policiers et les manifestants. Parce que c'est une des questions dont on a beaucoup parlé. Peut-être, à mon sens, pas assez, parce que je pense qu'il y a eu un moment où le côté politique de l'affaire, puis en fait, le côté loi sur les mesures d'urgence de l'affaire a tellement pris le dessus de la conversation publique que la question, est-ce que les policiers à Ottawa avaient fucked up la situation? Est-ce qu'on avait là des erreurs majeures?
Ouais.
Est-ce qu'il y avait des doubles standards entre la façon dont on a traité ces manifestants-là ou d'autres manifestations qui ont eu lieu dans l'histoire du Canada récente? Est-ce qu'il y avait des policiers de connivence avec les manifestants? Toutes ces questions-là, on se les est posées, mais c'est comme si, après que le convoi a été démantelé, le côté de comment il a été démantelé avec la loi des mesures d'urgence a comme mis de côté ces questions-là, alors que toi, dans la commission, t'as comme eu l'occasion de te plonger là-dedans. Qu'est-ce que t'as appris du travail des policiers en suivant d'aussi près la commission Rouleau?
Ce mot « connivence » est intéressant parce que, justement, il y avait énormément de gens qui regardaient travailler les policiers pendant les 3 semaines du convoi à Ottawa, qui se disaient « mais ils font rien pour arrêter les gens. Ils font rien pour les empêcher de briser les lois. » Il y avait très peu ou presque pas de police de répression.
Oui.
Comme on a pu, comme j'ai pu voir, comme jeune journaliste à Montréal lors des manifestations sur les droits des gays, ou comme on a pu voir sur lors des grandes manifestations autochtones ailleurs, surtout dans l'ouest du pays. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une ligne de policiers avec leurs boucliers puis leurs casques pour faire savoir aux gens que c'était la fin de la récréation et que... Et la réponse, c'est que, de un, c'était presque écarté comme possibilité dès le début. Les policiers, comme les citoyens, étaient entourés par les manifestants. On aurait dû s'imaginer que le convoi reste. On ne l'a pas prévu comme il aurait fallu. Et donc, c'était déjà une situation presque pas gagnable pour les polices dès le départ. Mais d'autre part, cette idée d'une police de répression qui procède à des arrestations, qui traite les manifestants tout entier comme étant l'ennemi qu'il faut maîtriser.
Oui.
C'est vu comme une conception passiste du travail des policiers.
Passiste.
Passiste. Parce que il y a 15-20 ans, il y avait quelques grandes manifestations qu'on a essayé de supprimer de cette façon-là et ça a très mal fini, surtout à Upper Wash en Ontario.
Mais je pense au G20 à Toronto.
Oui.
Ben, en fait, moi, j'ai des amis qui ont vécu les deux, le G20 à Toronto et les manifestations étudiantes à Montréal. Donc, il y a vraiment une génération qui a été marquée par ça et qui regarde ce qui se passe, qui a regardé ce qui se passe à Ottawa et qui l'a vécu comme un double standard très fort.
C'est parce que on commence à essayer d'appliquer les leçons de ces grandes confrontations entre policiers et manifestants aux années 2005, 2006, 2007.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'étais très intéressé par un policier de l'Ontario Provincial Police, la Sûreté de l'Ontario, qui s'appelait Marcel Bowden. Lui était en quelque sorte le prophète d'une autre façon de gérer de telles grandes manifestations.
Et tu fais son profil, son portrait dans le chapitre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette lecture-là.
Justement. Ouais. Ça s'appelle les équipes de liaison.
Oui.
Police Liaison Teams. Qui sont censés ignorer les méfaits des manifestants, ne pas trop faire grand état des gestes, je dirais, criminels ordinaires des manifestants, mais qui est censé plutôt discuter avec les manifestants.
Mm-hmm.
Commencer à les connaître. Commencer à se faire connaître par eux. Donc, se présenter, les suivre, même les accueillir ou les apprivoiser sur la route avant d'arriver à Ottawa pour ensuite jaser avec eux presque à tous les jours. Comment ça va? Est-ce que vous avez des tensions? Et si jamais je pourrais vous demander de quitter tel ou tel endroit qui est un peu sensible, Et on peut, à la limite, amener des toilettes portables pour que votre journée soit plus confortable. Est-ce que ça vous arrangerait?
Une forme de négociation.
Effectivement, une forme de négociation constante. Pour ensuite dire, là, ça commence à être assez. Mes collègues qui sont des policiers plus traditionnels commencent à s'impatienter. Est-ce que ça vous dit de quitter les lieux parce que les autres, les prochaines, ne vont pas demander aussi gentiment? Donc, c'est un jeu de...
Bon cop, bad cop.
Effectivement. Mais pour ce faire, il doit y avoir des bons cops. Il doit y avoir des gens qui ont été très mal vus par les voisins parce qu'ils semblaient vouloir être les copains des manifestants plutôt que d'être des policiers traditionnels. C'est Marcel Bowden qui a essayé de convaincre à ses collègues, qui a essayé de convaincre au gouvernement fédéral que c'était la meilleure façon de procéder.
Parce que juste pour clarifier, le Marcel Bowden dont tu parles dans le chapitre, il n'est pas donc membre de la police d'Ottawa, il est à OPP, donc la police provinciale de l'Ontario. Donc lui, il n'était pas intervenant directement, à moins... jusqu'à la dernière minute, il n'était pas sur le terrain avec les manifestants. Son équipe n'était pas sur le terrain.
Justement, jusqu'au dernier jour, l'OPP n'était pas impliqué directement.
C'est ça. Mais c'est un témoin qui était présent à la commission et qui a présenté une autre vision du travail que les policiers auraient pu faire à Ottawa, où les agents, ce type-là d'agents de liaison, auraient joué un rôle plus important.
Ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce gars-là, je ne l'avais pas remarqué lors de son témoignage. C'était en relisant les transcriptions.
Oui.
Chaque témoin, pratiquement avant de commencer à témoigner, la plupart font une affirmation solennelle, non religieuse. Celui-là était le seul témoin à prêter serment avec une plume d'aigle. Pourquoi? Parce qu'il est autochtone. Parce qu'il vient d'un petit village autochtone du nord de l'Ontario et qu'il est entré dans la police provinciale au même moment que le dépôt de la commission d'enquête sur une grande manifestation à Ipperwash qui s'est soldée par la mort d'un manifestant autochtone. Et la police a avoué, constaté, pris conscience du fait qu'il n'aurait pas dû procéder avec, dans un esprit de répression traditionnelle. Des centaines de policiers contre des centaines de manifestants en espérant que ce soit les policiers qui soient plus forts. Parce que ça mène directement à la confrontation, à une surchauffe émotionnelle et éventuellement à la mort d'un manifestant. Et ils ont décidé d'institutionnaliser cette idée de la conciliation et de liaison entre la police et les manifestants. Et ce gars-là, Marcel Bowden, a passé son carrière à peaufiner les techniques et après seulement 2 ou 3 ans, a commencé à appliquer à des manifestations qui n'étaient pas autochtones les idées qui venaient des manifestations d'autochtones. Parce que, d'un, on ne veut pas être accusé de traiter un groupe différemment que d'autres. Et de deux, les dynamiques sont très semblables. La surchauffe émotionnelle, la confrontation physique, le risque des deux côtés, c'est très dangereux pour les policiers et c'est d'autant plus dangereux pour les manifestants. Ils ont décidé de mettre en place une autre façon de procéder. Et dans toute la couverture de la commission Rouleau, j'ai presque pas lu 2 lignes sur ce débat procédural entre la police traditionnelle, police de confrontation et de répression, et cette nouvelle tendance qui est née d'inspiration autochtone, mais qui commence à s'appliquer à de plus en plus de manifestations. Et je pense que ça vaut un débat de société.
En fait, la conclusion que tu tires à partir de ce témoignage-là, c'est que finalement, la police provinciale de l'Ontario avait, dans sa culture, avec cet homme-là notamment en position de leadership, une manière de vouloir travailler avec des agents de liaison direct sur le terrain à Ottawa qui n'a pas pu se réaliser complètement ou pas avant la dernière minute, ce qui a fait en sorte que peut-être que si ça avait été fait comme ça plus tôt, la loi sur les mesures d'urgence n'aurait pas été invoquée. On peut bien sûr pas refaire l'histoire avec des si, là, mais que, en fait, la situation aurait peut-être débloqué plus vite. Et c'est intéressant parce que dans le débat public, les questions, c'est de la connivence, la complicité entre les policiers et les manifestants. Et d'un autre côté, toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y en a pas eu assez, dans un sens.
Et j'imagine que ça va être assez controversé. Et ce n'est pas une thèse que je pousse fort, parce que je ne suis pas certain quelle aurait été la meilleure façon de gérer cette énorme manifestation. Mais je suis, au fil du bouquin, ceux et celles chez les policiers, chez les différents gouvernements et chez les manifestants qui préféraient la conversation, la conciliation, la connivence, plutôt que la confrontation. Parce qu'il y en avait même chez le leadership du convoi. Ouais. Il y en avait pas tout le monde. Alors, j'essaie de mettre plus en lumière les gens qui cherchaient autre chose que la confrontation, même dans un contexte très confrontationnel.
Je pense que, de manière générale, les personnes qui défendent les libertés de la personne, qui ne veulent pas de répression policière, de manière générale, vont trouver cet aspect-là très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Association pour les droits et les libertés civiles était très inquiète, par exemple, de l'invocation sur les lois des mesures d'urgence. Tu n'as pas besoin d'être pour ce que le mouvement de ces manifestations-là représentait pour pas vouloir que les gens se fassent péter la gueule par des policiers. Là-dessus, je pense que, je veux dire, la gauche va suivre. Là où c'est plus complexe, c'est qu'il y a eu aussi tout un contexte où il y avait des policiers qui n'étaient pas des agents de liaison, qui ont été filmés ou vus en train d'être de connivence avec les manifestants au niveau de leur cause, carrément.
Ouais.
Il y a eu des traces de dons venant de membres des policiers au convoi. Donc, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses, je pense, qui risquent de faire réagir,
ouais,
dont cet élément-là où, clairement, les affinités idéologiques entre certains membres des forces policières et des convois, il y a plusieurs choses qui ont été mises de l'avant dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des questions sur, non pas le fait que c'est important que des policiers ne traitent pas des citoyens à coups de bâton, mais plus sur, encore une fois, je vais revenir sur cette idée-là de double standard, de deux poids, deux mesures.
Ouais.
Pourquoi est-ce que c'est avec les gens qu'on sait qu'il y a plusieurs membres des corps policiers qui avaient des affinités idéologiques, que ces questions-là sont le plus mises de l'avant, qu'on prend plus le temps de réfléchir à ça, alors que quand les policiers ne sont pas les amis,
ouais,
on fait moins attention, ou ces agents, cette manière douce-là. En fait, je pense qu'il y a une partie des gens qui risquent de lire ça avec leurs propres expériences,
oh ouais,
dans les mouvements sociaux, plutôt qu'avec ce que tu mets de l'avant, qui est de ne pas frapper du monde, c'est toujours une bonne idée.
Non, et c'est sûr que bien des gens vont trouver le convoi, les gens qui, ouais, participaient au convoi, ouais, choquants, ouais, révoltants.
Ouais.
C'est sûr qu'il y avait des racistes. C'est sûr qu'il y avait des gens qui posaient, ouais, des menaces de mort à peu près tous azimuts. C'est sûr qu'il y avait un élément de classe là-dedans. Et je traite moins de cette question-là dans le livre, mais je trouve les racines théoriques et quasiment ethnoculturelles de cette pensée,
oui,
policière assez intéressant.
Tu parles de celle de Marcel Bourdin, tout à fait. Le fait que ça soit venu d'un policier autochtone qui s'est joint à l'institution à ce moment-là, qui essaie de changer les choses intérieures, et bien sûr, il y a des grosses, grosses limites à faire ça dont on pourrait développer dans tout un épisode au complet, mais le fait effectivement que ça développe une philosophie différente est intéressante. Et bien sûr, la question, c'est que s'il y avait ça à cause de cette personne-là à l'OPP, clairement, ça semblait pas être présent dans les services de police d'Ottawa même. Quand on regarde la manière dont la GRC gère Wet'suwet'en,
ouais,
ça semble vraiment pas être aussi, comment dire, universel dans les systèmes policiers canadiens comme approche non plus.
Quand je commence à suivre cette pensée, comme je le fais dans le chapitre,
ouais,
l'évolution de cette pensée en Ontario,
ouais,
je vois des moments où des journalistes, des collègues journalistes,
ouais,
qui aimaient bien voir les manifestants autochtones recevoir un claque sur la gueule, qui commençaient à se plaindre du fait que les policiers étaient soudain devenus beaucoup plus réticents.
Ils étaient comme
déçus, là. Oui, oui, oui. Oh, oui.
Oh non.
Un ancien collègue du National Post. Et aussi des juges qui avaient émis des injonctions contre des manifestants autochtones qui se posaient sur la place publique quelques semaines par après. Comment se fait-il que la police n'applique pas l'injonction que moi j'ai émise? Est-ce que la loi ne vaut pas la même chose pour un manifestant autochtone que pour moi, pour un autre?
Donc, dans le fond, un juge donne des pouvoirs à la police, puis la police fait comme, non, merci, je ne vais pas utiliser tes pouvoirs pour tout ça. C'est quand même assez inusité dans ce sens-là. Oui,
ouais, ouais. Et je pense que le citoyen ordinaire ferait bien de commencer à penser à ces débats-là, à suivre l'évolution de cette pensée et se poser les questions difficiles.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est vrai qu'un manifestant autochtone est la même chose qu'un camionneur dans le convoi de la liberté, doit être traité de la même façon? Si on n'est pas certain que les deux sont équivalents, Est-ce que c'est aux policiers qu'on veut donner le pouvoir de trancher entre les différentes sortes de manifestations, ou est-ce qu'on n'est pas mieux de faire en sorte que les policiers traitent tous les manifestants sous les mêmes règles et avec les mêmes procédures?
Mm-hmm.
Parce que moi, personnellement, j'ai des amis policiers, j'aime bien les policiers, mais je ne veux surtout pas que dans le moment d'une confrontation avec des manifestants, que ce policier-là décide, selon sa grille d'évaluation, qui sont les bons et qui sont les méchants. Je préfère que cette décision-là ne soit pas prise...
Sur un coup d'humeur, mettons.
Effectivement.
Ouais. Puis peut-être une dernière chose en terminant là-dessus que ça a suscité pour moi comme réflexion. Une chose sur laquelle tu parles dans ton chapitre, c'est l'idée que pour... En fait, qui est mis de l'avant par Marcel Bourdin, donc de l'OPP, qui dit qu'essentiellement, pour que ces agents de liaison-là puissent jouer leur rôle, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces gens-là qui collectent de l'information pour faire essentiellement de l'espionnage.
Ouais.
Et c'est intéressant comme élément parce que... Et là, je vais te partager ma propre expérience. Moi, j'ai vu des gens organiser des manifestations Black Lives Matter. Il n'y a pas moyen de ne pas avoir des policiers en civil qui sont là, non pas pour te parler, mais pour collecter toute l'information. Il y a même des cas de personnes qui vont inciter, des policiers undercover, inciter à la violence pour tester les leaders des mouvements. Donc ça, ça existe et tout, à peu près tous les organisateurs autochtones aussi qui nous écoutent pourraient vous donner des exemples de ça aussi, que en fait, c'est pas possible d'être un leader autochtone au Canada sans être, sous une forme ou d'une autre, presque suivi par les corps policiers. Et d'un autre côté, là, il y avait ce... On sait même pas si le convoi va être là pour rester, à quel point on n'avait pas cette... Donc, c'est comme si les agents de liaison, le rapport de « sont-tu là pour passer l'information » ou « sont-là vraiment pour collecter de l'information, pour ce qu'on appelle de l'intelligence, là, de ramasser le plus possible... une compréhension des mouvements sociaux qu'on perçoit comme des menaces. Moi, je l'ai vu, ça, pour les manifestants noirs et autochtones. Là, il semble que ça ne soit pas la manière dont on est approché le convoi d'Ottawa, que c'est une des raisons pour lesquelles on était donc surpris de l'ampleur du mouvement une fois qu'il est arrivé en ville puis que les camions étaient déjà installés là.
Ouais. Il y a tous ces dangers de double jeu, de deux poids, deux mesures. Il y a toutes ces tentations entre policiers de partager les informations pour mieux maîtriser... plutôt que de déjouer une manifestation. Mais à mon sens, on est mieux de tenir ces conversations-là en sachant que sont les tendances de la pensée policière plutôt que de l'ignorer. Et c'est une des contributions que j'espère avoir faites avec ce livre-là.
Finalement, la raison pour laquelle on est en train d'avoir cette discussion-là en ce moment puis qu'on est en train de dire « OK, c'est quoi les pour et les proches de cette approche-là? » C'est parce qu'on a accès à cette information-là. C'est un peu ce que tu disais en tout début de segment. Habituellement, cette manière-là, tant des gouvernements que des corps policiers, de fonctionner, ça nous est complètement opaque.
Ouais.
Et là, durant la commission Rouleau, il y a eu différents ordres gouvernementaux et différents policiers, différents corps policiers qui sont allés dire « Voici comment je travaille. » Et là, donc, Émilie, Paul et les autres nerds qui aiment ça faire ça peuvent dire « Oui, mais OK, comment est-ce que les policiers travaillent, etc., mais c'est quoi les problèmes avec ci, avec ça? Est-ce que ça, ça marche? Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce que ça, ça devrait être répliqué ailleurs? C'est quoi les problèmes, etc.? » On peut faire ça parce qu'il y a eu cette transparence-là et parce que toi, t'es allé faire ce que tu disais tout à l'heure du journalisme de procès, là, qui, même si c'est pas un procès, puis d'aller prendre dans un format long form le temps d'aller au-delà de la une pour aller fouiller, manquer, mais c'est quoi d'autre qui s'est passé dans cette commission-là, plutôt que Justin Trudeau a-t-il outrepassé ses pouvoirs avec la loi sur les mesures d'urgence. On a mis ça de côté, là, puis aller faire le reste.
Ouais.
Et pour ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Ça me prend une commission publique d'enquête pour pouvoir comprendre comment les décisions se prennent pour vrai. Parce que la cassette qu'on joue au quotidien sur la colline parlementaire, ça n'a rien à voir avec la vérité.
Mm-hmm. Absolument. Puis peu importe, là, j'ai hâte de voir en fait là où les gens qui nous écoutent vont se situer par rapport aux questions qu'on met de l'avant. Mais une chose qui est sûre, c'est que peu importe... en fait, si vous savez plus qu'on sait comment les choses fonctionnent, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on n'est pas sûr de ce qu'on pense, au moins on est pour ou contre, pas une caricature. Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important à retenir aussi de la conversation qu'on a. Si on avait plus de transparence en démocratie, pas juste lorsqu'il y a une loi sur les mesures d'urgence qui est invoquée, comme citoyen, on serait probablement en train de se coucher moins niaiseux le soir.
Tout à fait.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Paul, qu'est-ce que t'aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
Je n'ai qu'une petite anecdote sur la vie ici à Ottawa, qui est quand même un petit village. Mardi soir, je suis sorti avec ma femme pour un lancement de livre.
Je sens que ça va être croustillant. Je t'écoute.
En fin de compte, le lancement de livre était assez plate. Alors, on a décidé d'aller dîner ensemble au lieu. Et on a choisi un restaurant du centre-ville d'Ottawa qui n'est pas souvent très occupé. Alors, on y va et je vois que le maître d'hôtel qui nous amène à notre table était très nerveux. Mm-hmm. Et je constate 4 gardiens de corps dans la salle.
My God.
Et tout de suite, je savais de quoi il s'agissait. Parce qu'à Ottawa, il n'y a que 3 ou 4 personnages qui ont des gardiens de corps. L'ambassadeur américain, le haut commissaire britannique et le premier ministre du Canada. Et les 2 premiers...
Wow, c'est l'Empire. C'est les empires.
Oui.
C'est tellement parlant comme image.
Et j'ai déjà vu l'ambassadeur se promener à Ottawa, l'ambassadeur américain. Il n'y en a pas 4 gardiens de corps, il y en a 1 ou 2. Alors, je savais que ce qui devait arriver arriverait. Et c'est que quelques minutes plus tard, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est arrivé avec Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui est en déplacement au Canada. Et donc, ils se sont assis à côté de moi, ma femme. Nous avons tout fait pour les laisser en paix, parce que mes relations avec M. Trudeau sont un peu confrontationnelles parfois, et je voulais le laisser faire son travail. En quittant le restaurant, on a croisé un membre de l'entourage du premier ministre qui nous connaît, et il m'avait raconté que l'équipe de M. Trudeau était paniquée à l'idée que le pauvre gars doive s'asseoir pour dîner à côté de Paul Wells. Paul Wells est dans le restaurant, qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, quelqu'un un peu plus vieux, un peu plus sage a dit, vous allez laisser les 2 couples dîner en paix, ils ne vont pas s'entre-déchirer, et c'est ce qui est arrivé. Mais c'est ça, parfois, la vie à Ottawa.
Il y a beaucoup de prix dans le journalisme. Je pense que quand ta présence proche d'un premier ministre rend le bureau du premier ministre nerveux, je pense que c'est un prix en journaliste politique en soi. Donc, je pense qu'il faut le dire, Paul, quand même. C'est un honneur pour ta carrière.
Ça me fait à penser que je devrais sortir plus souvent pour donner plus de pratique à ce monde-là. Parce que quand même, comme provocation, j'en ai déjà vu pire que d'être dans le même restaurant.
Assis tranquille en train de manger, quand même. Là.
On a bien mangé, au moins.
C'est bien noté, Paul.
Émilie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué dernièrement, que tu veux partager?
Écoute, moi, je suis bien en feu depuis quelques jours sur l'approche du 8 mars. Donc, on enregistre cet épisode-là le 8 mars même. Donc, la Journée internationale des droits de la femme. Puis, plus tôt cette semaine, il y a Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui a fait un discours à Doha dans lequel il parle d'un rapport d'ONU-Femmes, donc une réunion de l'ONU à New York en ce moment pour les droits des femmes. Et dans ce rapport-là, annuel, ce qu'on dit, c'est que les femmes ne vont pas atteindre l'égalité à ce rythme-ci avant 300 ans. Et là, écoute, étant donné le sort de la planète, on ne se rendra pas peut-être dans 300 ans. C'était assez particulier d'entendre le secrétaire général de l'ONU dire ça. Et dans un contexte où il y a beaucoup de recul un peu partout dans le monde, et c'est tout détaillé dans le rapport pour les gens qui sont intéressés. Mais franchement, de se faire dire l'égalité homme-femme, on en a pour encore 300 ans de combat. Oui, ça fait partie des choses que je vais garder en tête ce mois-ci.
Ça se comprend. Et c'est une des raisons pourquoi, moi, personnellement, je suis moins enclin que je l'étais quand j'étais jeune à dire « laissez le temps au temps, Tranquillement, les choses vont s'améliorer. Et je comprends, je suis plus woke, plus ça va, plus je suis woke, parce que plus je comprends qu'il faut pousser et il faut s'impatienter. Parce que sinon, 300 ans, même moi, ça fait un peu trop.
Je ne sais pas si certains de mes journalistes québécois préférés, qui ne m'aiment pas beaucoup, qui écoutent, mais en tout cas, sachez que Paul Wells est woke, lui aussi.
Jean Kenney et je suis certain.
Deuxième badge d'honneur aujourd'hui. Prix du journalisme informel parce que tu fais part à Justin Trudeau et t'es woke et c'est parfait.
Ouais.
Deux awards.
Ouais, c'est... Quelle grande journée. Et pour toi, c'est bien noté.
Paul, on le disait d'entrée de jeu, tu es un de nos grands vétérans du journalisme politique, du journalisme au Canada, qui vient de gagner deux prix supplémentaires dans le dernier 10 minutes. Et là, il y a beaucoup de transformations dans le monde médiatique, bien sûr, au courant des dernières années. J'avais envie d'en discuter avec toi, puisqu'il y en a une bonne partie que tu as pu vivre de l'intérieur. Le projet de loi C-18 qui est mis de l'avant en ce moment est assez intéressant. Donc là, ce qu'on cherche à faire pour les gens qui n'ont pas suivi ça du tout, c'est forcer des plateformes numériques comme Google et Facebook à compenser, donc à payer essentiellement les entreprises médiatiques canadiennes pour les liens. Si Google met un lien vers un article du Globe and Mail, Google doit payer une forme de compensation au Globe and Mail pour le privilège d'utiliser ces contenus. On cherche par ça à diversifier la source de revenus des médias. Ça crée beaucoup de réactions, ça aussi un peu partout. Ce projet de loi-là, toi-même, tu te situes où par rapport à ça?
D'une part, ça se comprend. Et j'entends des gens qui proposent quelque chose de semblable depuis 2016, genre. L'idée, c'est que Google et Facebook, ils ont énormément d'argent.
Ouais.
Alors que TVA, Post Media, McLean's, ils en ont de moins en moins, ils mettent de plus en plus de journalistes à la porte. Et ce que font les géants du web, ça ressemble au journalisme. C'est le partage d'informations. Et eux réussissent à faire de l'argent. Alors, depuis plusieurs années, il y a des gens qui disent, est-ce que ces gens-là, qui sont les seuls à gagner des profits dans un contexte de partage d'informations, est-ce qu'ils ne devraient pas être amenés à mettre de côté une partie de leurs profits pour soutenir ces médias traditionnels qui sont quand même d'une importance capitale pour la démocratie? Mon seul problème, c'est que j'ai énormément du mal avec le comment. L'idée que c'est le lien de Google vers le Globe and Mail qui vole de l'argent du Globe and Mail au profit de Google, juste logiquement, j'ai énormément de difficultés à suivre cette
logique. Cette logique-là. Alors que finalement, il y a plein de gens dans les médias qui sont payés à pousser du contenu sur Google parce qu'ils savent bien que, ou sur Facebook, parce qu'ils savent bien que Google et Facebook les aident à trouver des nouveaux abonnés. Ouais. En fait, c'est la relation est mutuelle. Les gens s'entraident mutuellement. Alors que là, c'est comme si le projet de loi est bâti pour faire semblant que Google exploite les médias dans un sens plutôt que c'est pas de l'exploitation mutuelle.
Effectivement. Donc, c'est la première difficulté. L'autre, c'est une évidence que si on force Google à payer pour mettre des liens sur ses sites, une des options pour Google et pour Facebook, c'est de ne pas mettre des liens aux nouvelles.
Ils sont tellement gros, ils n'en ont peut-être pas besoin. Tu sais.
Oui, effectivement. Ils gagnent l'argent de tant de façons différentes que cet élément-là de leur modèle d'affaires, c'est assez facile à le supprimer.
Ça ressemble un peu à une game de poker. Tu te demandes c'est lequel qui va cligner des yeux en premier. Puis ça a l'air que c'est un peu les médias canadiens au sens où il semble que les médias ont plus besoin de Google et Facebook à ce stade-ci que l'inverse.
Ouais.
Et là, mais on a fait semblant que c'était pas le cas.
Quand j'étais à McLean's et que McLean's était possédé par Rogers, c'était capital pour l'avenir de McLean's que de avoir des liens des pages Facebook. Et ça n'a pas marché, donc McLean's n'est plus possédé par Rogers et je ne travaille plus au McLean's, mais à un moment donné, c'était notre plus grand espoir. Ce n'était pas le fait que Facebook nous volait quelque chose. On espérait que Facebook nous donnerait plus de liens.
Oui, c'est ça.
Le dernier problème que j'ai, c'est, mettons que ça marche et qu'on mette de côté 300 millions de dollars par année pour les médias traditionnels grâce à Facebook et Google. On va le partager comment, ces 300 millions de dollars? Quels médias vont profiter le plus? Quels médias seront laissés pour compte? j'ose imaginer que ceux qui recevront la part du lion de cet argent-là seront les médias qui ont le plus fucké leur affaire depuis 20 ans, qui ont le plus mal géré leur immense empire médiatique.
Okay.
Et qui ont les lobbyistes les plus rusés. Je suis presque certain que ça va marcher pareil. Mais et que c'est... Canada Land et Paul Wells, journalistes indépendants, seront laissés pour compte.
Mais c'est ça, en fait, la crainte. Parce que, bon, on ne va pas se cacher, on est à Canada Land. Toi, tu es sur un Substack maintenant. Tu as tellement plein de awards sociaux que tu peux juste te gérer toi-même, puis les gens te suivent parce que juste les Paul Wells. Donc, la crainte, je pense, c'est qu'on ne veut pas cibler le Globe. Là. C'est juste quand même un bon exemple. Des gens comme le Globe qui sont des géants, même si à l'échelle de Google, c'est tout petit, ces gens-là vont avoir un pouvoir de négociation avec Google. Si chaque média doit négocier gré à gré avec ces géants-là, plus t'es gros, plus c'est un coût pour Google ou Facebook de plus pouvoir utiliser ton contenu, plus tu risques peut-être d'avoir une compensation plus élevée pour ton contenu. Et là, on se demande, les médias comme Canada Land ou les médias indépendants, il y a eu d'ailleurs une lettre ouverte collective de plusieurs médias, petits, moyens et médias émergents au Canada qui se sont dit, OK, mais nous, même si ces gens-là négocient collectivement,
ouais.
Est-ce que ça ne va pas créer un système à 2, 3, 4 vitesses où finalement les médias... C'est intéressant d'ailleurs que tu disais les médias traditionnels parce que les médias sont pas tous traditionnels. C'est pas un truc entre les médias sociaux et les médias traditionnels. Il y a des médias
ouais.
qui font du journalisme qui sont pas traditionnels. Et donc, ces gens-là, ces médias non traditionnels qui sont des médias de journalisme, se demandent s'ils sont pas en train de se faire avoir et par Google et par les médias traditionnels.
Ouais. Pour moi, c'est un complot des grands, des anciens grands.
Contre les nouveaux grands.
Sauf que c'est un peu trop facile de le dire. Parce que les anciens grands... Ils sont plus grands. C'est pas en extorquant des centaines de millions de dollars de Google qui vont changer quoi que ce soit.
Il y a des médias qui vont gagner peut-être financièrement si ce projet de loi-là passe. Ils vont-ils aller publier des lettres d'opinion contre,
tout le monde est dans
critique.
Tout le monde est dans un immense conflit d'intérêts. J'ai dit à un ancien candidat libéral qui a essayé de me vendre cette idée selon laquelle les géants du web étaient des méchants, j'ai dit, mais chaque journaliste qui va couvrir la prochaine élection fédérale est dans un immense conflit d'intérêts. Parce qu'il y a des centaines de millions de dollars en jeu si les libéraux sont réélus. Et du moins, en principe, on ne connaît pas les détails des politiques de Pierre Poilievre, mais tout cet argent-là va s'en aller si les conservateurs gagnent. C'est certainement vrai pour les gens qui travaillent à Radio-Canada.
Oui, surtout CBC plus que Radio-Canada, mais oui, effectivement, à chaque fois que les conservateurs disent qu'ils veulent définancer CBC, c'est sûr que tu te demandes c'est quoi l'impact que ça a sur la couverture fédérale. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Là.
Et les journalistes n'ont rien fait pour se mettre dans cette position de conflit d'intérêts.
Non, c'est une apparence de conflit d'intérêts qui jette le doute sur l'intégrité journalistique sans que les individus puissent y faire quoi que ce soit. Par rapport à l'époque où tu es rentré en journaliste, est-ce que tu sens qu'il y a eu un moment... De crise où ça s'est transformé tout au lendemain, où c'est venu graduellement, puis tu vois le plâtre qui commence à s'effriter, puis les murs qui commencent à tomber, puis tu t'en rends pas trop compte, puis justement, tu réalises que finalement, la bâtisse a pas été réparée, puis ça commence à avoir de la moisissure, puis il fait frette.
C'est surtout un long déclin.
C'est un long déclin, hein?
Surtout depuis les 25-30 années d'Internet. Tu me demandes un moment, c'est au courant 2008. Et c'était l'arrivée des iPhones qui a tout changé. Parce que moi, j'étais à McLean's et on essayait de vendre des numéros à la pièce, au kiosque de McLean's. On rendait plus sensationnalistes les pages couvertures de McLean's. C'était à cette époque-là qu'on a sorti.
C'était cette époque-là, le bonhomme carnaval.
Effectivement, oui. Le Québec, la province la plus corrompue du Canada. Je dois toujours insister que...
C'est tellement important là, de voir à quel point cette pression-là financière, technologique sur les médias, ça l'a mené à l'augmentation du sensationnalisme notamment sur les pages couverture. Là.
Chez mes collègues et parfois chez moi-même, c'était une joie de faire dans le sensationnalisme.
Bon.
Je n'ai jamais écrit une ligne de ce numéro de McLean's qui traitait...
Mais t'as ri un peu dans ta barre, pareil.
Ouais, je trouvais ça hilarant. Je savais que la réaction serait ce qu'elle était.
Confession de Paul Wells.
Mais ça marchait. Ça marchait. Les ventes au kiosque s'en allaient constamment en hausse. Il y avait des gens qui avaient prédit que ça ne marcherait pas, mais ça marchait à merveille. Jusqu'en 2008, il y avait une dégringolade époustouflante. Et la raison était que les gens qui voyageaient en avion pouvaient lire leur iPhone plutôt que d'acheter un magazine au kiosque à l'aéroport. C'était le plus grand changement dans le plus court laps de temps de ma carrière.
Mmh. C'est intéressant de parler de 2008 comme la crise des iPhones et non pas comme la crise financière.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait deux crises en même temps? Toi, comme journaliste, comment cette angoisse-là a changé ton travail?
La conclusion personnelle que j'ai tirée, c'est qu'il faut mettre plus d'emphase, pas moins, mais plus d'emphase sur un journalisme qui vaut l'effort de le lire.
Mm.
Parce que un journalisme anecdotique de faits divers, ça s'ignore facilement. Mais plus on fait un journalisme avec la substance, c'est pour ça que une des plus grandes surprises de ma vie, c'est que Le Devoir est devenu un grand journal montréalais.
Ben oui, comment ça t'es surpris de ça, toi? T'es bien bizarre.
Parce que quand j'étais jeune, tout le monde traitait Le Devoir comme « the small but influential Montreal newspaper », un journal petit mais influentiel.
Petit mais mighty,
oui. Oui, effectivement. Mais là, que la presse ne soit plus sur papier, que le numéro du samedi du Devoir soit lu non pas que par quelques profs de l'UQAM, mais par le gratin montréalais. C'est grâce à quelques...
Excuse-moi, tu m'as perdu un prof de l'UQAM.
c'est grâce à une gestion assez rusée par plusieurs générations d'équipes de rédaction au Devoir, mais aussi parce qu'un journal qui vaut la peine de le lire va s'ouvrir.
Mais dans le fond, cette réflexion-là sur en faire peut-être moins et plus profond. Est-ce que c'est ce constat-là qui t'a amené notamment à dire « ben moi, je pars à mon compte, je quitte le McLean's, puis je fais les choses à ma façon? »
Oui. Je me lance comme pigiste et comme journaliste indépendant. Mais là, la question, c'était de quelle façon est-ce que je vais procéder? Est-ce que ça va être en radicalisant mon offre politique?
Ben, radicalisant, c'est un gros mot, là.
Oui, mais j'en connais qui l'ont fait. Je mène la rébellion contre la pensée unique woke. J'ai été cancellé par les woke et là, je n'en peux plus et je...
Oui, c'est vrai qu'on nommera là aussi pas personne, mais il y en a qui ont parti leur obstacle comme ça.
Oh, effectivement. Et c'est très rentable. Je sais que lorsque je suis plus en colère contre le gouvernement Trudeau, lorsque je suis plus critique envers Justin Trudeau, je vends des abonnements. Ça vend ce courant-là. Mais il y a une raison pourquoi le deuxième papier que j'ai écrit sur mon Substack était une longue entrevue avec Carlos Letao, l'ancien ministre des Finances de Philippe Couillard, que tout le monde sait est assez plate comme personnage, mais qui a vécu des moments importants et qui se sent libre pour en discuter et qui avait pris des choix difficiles et qui a payé le prix politique. Et j'ai décidé, je vais annoncer aussitôt que possible aux gens, que ça aussi, ça va faire partie de mon offre journalistique. Et ça aussi, ça marche. Le sérieux, ça marche pour moi, même mieux que le sensationnalisme. Et je suis assez encouragé de le constater.
Donc là, Paul, on est parti de ces 18, on est en train de parler complètement autre chose, mais dans le fond, on est en train de parler du contexte.
Ouais.
Toi, est-ce que quelque chose que tu dis par rapport au projet, ce projet de loi-là, c'est il y a un dernier truc que les gens devraient vraiment comprendre?
Juste que tous ces projets de loi dans l'espace numérique que les libéraux ont mis de l'avant ou qu'ils préparent.
Parce que c'est pas le premier, là.
Ouais. Ce sont des réponses à des enjeux très importants qui existent, qui ne s'en iront pas si on les ignore. Mais dans chacun des cas, ce sont des réponses discutables autour duquel il faudrait avoir un débat sérieux. Et un des problèmes de l'époque actuelle, c'est que le Parlement, ici à Ottawa, c'est le pire endroit pour tenir un débat sérieux sur quoi que ce soit.
Juste pour que les auditeurs aient conscience, quand Paul dit « c'est le pire endroit », pour avoir un débat sérieux à Ottawa, on est dans son bureau où j'ai devant moi la vue sur la colline parlementaire avec un panneau de route fermée parce que la colline est encore fermée depuis maintenant un an.
Ouais.
Tellement la ville est cicatrisée physiquement par l'incapacité des gens à avoir des débats de manière saine. finalement, là.
Oui, effectivement. Ottawa est devenu le musée vivant du convoi pour la liberté. Ouais.
Et de la merde qui a pogné du rock. On va dire comme ça. Merci beaucoup, Paul.
Merci, c'était un plaisir.
Alors, c'est tout pour Détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. On est allé dans des conversations très corsées aujourd'hui. J'ai franchement envie de voir vos réactions. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Où est-ce que les gens peuvent te trouver aussi, Paul?
paulwells.substack.com.
Voilà. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux. Parlez-en à vos proches. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.